RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et comme on a pris l'habitude de le faire une fois par mois, on se penche ce matin sur quelques épisodes marquants et significatifs de l'actualité de l'écologie ces dernières semaines. Et on le fait avec vous, Anne Kerléau. Bonjour Anne.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
4 sujets au programme jusqu'à 10h.
On commencera par se pencher sur la tribune publiée la semaine dernière par des scientifiques dans le journal Le Monde. Ils dénoncent les discours déconnectés du réel et une course de lenteur face à l'urgence écologique et témoignent de la défiance grandissante qui s'installe dans la communauté scientifique vis-à-vis du pouvoir politique. Nous reviendrons ensuite sur la condamnation de la Suisse pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. C'était le 9 avril, une décision jugée historique par de nombreux observateurs et observatrices. On essaiera de comprendre pourquoi. Les JO de Paris au programme ensuite. Nous évoquerons d'une part la mauvaise qualité des eaux de la Seine, pointée par l'ONG Surfrider, et un rapport d'experts qui indique que malgré les efforts du comité d'organisation, les Jeux ne peuvent devenir écologiquement compatibles que si leur modèle est totalement réformé. Et enfin, nous essaierons de décrypter le télescopage d'informations qui peuvent paraître contradictoires et au milieu desquelles on a parfois du mal à s'y retrouver. D'un côté, l'annonce de nouveaux records de température sur Terre et en mer en mars 2024 et sur les 12 derniers mois dans le monde. Et puis un rapport de France Stratégie paru il y a quelques jours qui indique que la ressource en eau a diminué de 14% en France au cours des dernières années. Et d'autre part, le constat de nappes phréatiques remplies actuellement sur la majorité du territoire français.
Voilà, programme chargé ce matin. Vous avez la parole pour réagir au 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et dans la seconde partie de l'émission, un autre sujet d'actualité qui pourrait permettre de lutter contre la précarité alimentaire, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Le principe est simple, des citoyens cotisent selon leurs moyens et se répartissent une allocation financière dédiée à leur alimentation. Un projet en expérimentation en Occitanie et depuis peu en Gironde. Rendez-vous à 10h pour en savoir plus. Mais pour l'instant, Anne, on accueille nos trois intervenants de cette première partie pour décrypter l'actualité de l'écologie du mois d'avril.
Ah oui, bonjour Florence Gault.
Bonjour Anne.
Journaliste indépendante spécialisée sur les enjeux de transition écologique et solidaire, vous avez lancé il y a quelques mois le podcast En un battement d'ailes. Le dernier épisode en date, c'est le 11, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Et il s'intéresse aux entreprises et artisans qui ont abandonné la camionnette et opté pour le vélo pour les déplacements liés à leur activité.
C'est ça.
Ça s'appelle En un battement d'ailes. Bonjour Alexandre Poidatz.
Bonjour Anne. Bonjour Melchior.
Alors vous êtes chroniqueur dans cette émission Un mardi sur deux, vous êtes l'un des cofondateurs du collectif Lutte et Contemplation et puis côté professionnel vous travaillez dans une ONG où vous êtes responsable des campagnes de plaidoyer sur les énergies et le climat. Et j'accueille pour terminer un nouveau venu dans cette émission, c'est vous Philippe Vianduri, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'un des trois cofondateurs et cofondatrices de Fracas, un nouveau média qui est en train de naître, centré sur l'écologie et sur ses luttes. Ça c'est pour le fond et puis sur la forme, ça sera à la fois un magazine papier, une newsletter et des entretiens vidéo, c'est ça ?
C'est à peu près ça, ouais.
On en dira plus en fin d'émission. Et j'ajoute qu'auparavant, vous avez été pendant 6 ans rédacteur en chef du magazine Social Terre. Merci à vous trois d'être avec nous ce matin.
Une défiance grandissante s'installe dans notre communauté scientifique vis-à-vis du pouvoir politique. C'est ce qu'ont écrit 260 scientifiques dans une tribune parue la semaine dernière dans le journal Le Monde.
Oui, et les auteurs de ce texte commencent par rappeler que l'humanité fait peser des pressions insoutenables sur son environnement. Ils écrivent que du fait de ces pressions, pratiquement tous les signaux sur l'océan et le climat sont au rouge. Ils dénoncent ensuite le décalage entre les intentions affichées par les pouvoirs publics et les actions vraiment engagées. Et ils expliquent qu'en raison de cette inaction, une défiance grandissante s'installe donc dans la communauté scientifique vis-à-vis du pouvoir politique. Il propose pour faire face à ce constat trois pistes concrètes au gouvernement pour agir à la hauteur des enjeux. D'une part, renouer autour d'une loi climat et résilience 2 avec l'esprit de la Convention citoyenne pour le climat. Ensuite, assurer aux aires maritimes protégées françaises le niveau élevé de protection recommandé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. c'est-à-dire au minimum l'interdiction de la pêche industrielle, alors qu'en ce moment la France défend à Bruxelles le chalutage intensif. Et enfin, troisième proposition, modifier la classification des plastiques et les intégrer aux entités dangereuses. Cette classification ouvrirait la voie vers un traité plastique en cours d'élaboration qui aurait un réel impact. Alors c'est pas la première fois que des scientifiques interpellent ainsi les pouvoirs publics. Et puis il y a le mouvement scientifique en rébellion qui s'est développé depuis quelques années, qui mène des actions de désobéissance civile. Or, les scientifiques, c'est plutôt des personnes dont on a l'image de gens qui sont dans leur laboratoire, qui, en tout cas, ne s'impliquent pas forcément sur le terrain politique. D'ailleurs, il y en a certains qui restent réticents, voire critiques sur ces démarches de leurs collègues. Mais pour vous, que disent ces démarches? Comment vous les analysez, Philippe Vionduré, peut-être pour commencer?
Moi, j'ai l'impression, et cette tribune le révèle assez bien, qu'il y a une sorte de scission qui est en train de se produire aussi dans le monde d'un comité scientifique. Avec d'une part les auteurs et autrices de cette tribune qui finalement, je pense, restent dans une analyse d'inaction des gouvernements, comme s'ils n'avaient pas assez compris ou ils étaient trop lents ou ce genre de discours-là. Et d'un autre côté, une autre partie de la communauté scientifique qui, elle, est en train, alors certains diraient de se radicaliser, mais moi je dirais de se déniaiser presque, et de voir qu'il ne s'agit pas d'inaction, mais d'action contraire aux impératifs écologiques documentés par leurs travaux scientifiques. Et là, on voit quand même de plus en plus que si les gouvernements n'agissent pas dans le sens qu'il faudrait, c'est qu'ils protègent d'autres intérêts dans la société ou d'autres logiques, idéologiques, économiques, etc. Et qui sont contraires aux constats qu'ils font, eux, sur le terrain ou dans leurs labos, etc. Donc je pense qu'il y a une sorte de scission, mais qui se produit dans la société aussi. Hein, et qui n'échappe pas, on va dire, au courant qui traverse la société aujourd'hui.
Mais qui est peut-être plus, Alexandre Poinette, plus spectaculaire au sens où on n'avait pas l'habitude de ce genre de démarche de la communauté scientifique.
Oui, jusqu'à présent, les scientifiques, vous l'avez dit, Anne, et moi j'ai plutôt cette vision aussi de scientifiques dans un laboratoire qui sont plutôt neutres, qui cherchent la rationalité, qui font des recherches. Enfin, c'est une image en tout cas que j'ai depuis l'enfance. Et là, c'est vrai que qu'ils prennent la parole et qu'ils prennent la parole de plus en plus en interpellant le gouvernement. C'est pas rare depuis quelques années, mais c'est de plus en plus fort et leur discours est de plus en plus vigoureux. Ils le disent d'ailleurs dans la tribune. On pourra s'étonner de la vigueur des critiques qu'on formule, mais c'est nécessaire. Après un moment, quand on ne se fait pas entendre vis-à-vis des pouvoirs politiques, moi j'aime bien l'image un peu de l'enfant. Quand on dit à un enfant « s'il te plaît, range ta chambre », on lui redit « s'il te plaît, range ta chambre ». Et puis la troisième fois, on commence un peu à s'énerver. Range ta chambre, on devient impératif. C'est un peu la même chose vis-à-vis des scientifiques et du pouvoir politique. Et ce qui m'étonne, c'est que dans notre société qui est quand même où on met la rationalité, je veux dire le siècle des Lumières, etc., assez haut, le fait qu'on n'entende pas les scientifiques, moi ça m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants politiques et économiques.
Alors, on les entend pas, alors que pourtant, Florence Gault, ils se font entendre de plus en plus. Moi, je vais m'impliquer aussi en tant que journaliste. J'ai le sentiment que vraiment, ils se rendent disponibles à nos sollicitations de journalistes. Ils viennent expliquer, vulgariser. Je crois que c'est aussi l'expérience que vous faites, notamment pour votre podcast.
Oui, complètement. On a de plus en plus de scientifiques qui sont prêts à donner du temps. Ça rentre presque maintenant dans leur fiche de mission. Pour ceux qui en expriment le souhait, hein, certains me disaient que, justement, au sein de la communauté scientifique, il y a un peu ceux qui ont envie de parler et ceux qui préfèrent être concentrés sur leur recherche, mais qu'aujourd'hui, ça devient en fait inévitable de se confronter à la communication, aux journalistes, à l'information. Et certains, presque, y dédient une partie de leur carrière, voire abandonnant les recherches pour pouvoir justement se concentrer sur la vulgarisation, le fait de pouvoir un peu expliquer les enjeux écologiques. Et très clairement, moi, dans ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a une sorte un peu de sentiment de ras-le-bol, de colère. On se souvient du fameux coup de gueule de Jean Jouzel, un des anciens vice-présidents du GIEC, qui du coup dit mais ça fait des années qu'on dit les choses. On se rappelle que le 1974, c'est le rapport Meadows qui déjà posait en fait le constat scientifique tel qu'on le connaît aujourd'hui, et que en 50 ans, les choses n'ont pas n'ont pas suffisamment encore bougé. Et donc, il y a effectivement au sein de cette communauté une envie de se faire entendre de plus en plus, surtout que les solutions, les propositions, elles sont là. Récemment, dans un de mes épisodes, j'ai traité de la pollution plastique et notamment, je discutais avec une des chercheuses de l'IFREMER et qui me disait que dans le cadre de la directive cadre stratégie pour le milieu marin, pendant 2 ans, ils ont étudié la provenance des déchets marins pour essayer de retracer en fait le parcours des déchets, essayer de localiser d'où ils avaient été jetés pour pouvoir remonter, éventuellement tracer les entreprises. Et tout ça, ça a été remis en fait au pouvoir public de manière à ce que le gouvernement, les institutions puissent ensuite prendre des décisions politiques en s'appuyant sur les recherches scientifiques. Et par moment, il y a cette sensation un peu de lenteur, alors soit administrative, bureaucratique, mais aussi politique.
Mais justement, finalement, on en revient toujours... Oui, Philippe Vianduri.
Ouais, moi, j'aimerais juste encore insister sur la question de la lenteur. Mais en fait, il y a aussi une partie de la communauté scientifique qui commence à rompre ses liens avec le gouvernement ou avec cette logique-là qu'on voit dans la tribune. Parce qu'en fait, on voit que les réponses du gouvernement, elles sont aussi dans la maladaptation, par exemple, avec les bassines. On l'a beaucoup vu ces derniers temps. Des scientifiques comme Abetz, Magali Regueza, etc. sont exprimés très très clairement contre, c'est les spécialistes. Les projets inutiles, moi je pense à Christophe Cassou qui allait sur l'A69 et qui réalisait que ce projet était complètement délirant, backé par aucun document scientifique, au service des intérêts locaux du béton, etc. Et d'un seul coup, découvrait que c'était des actions anti-écologiques. C'était pas encore une fois une lenteur ou un manque de prise de conscience. Et par ailleurs, sur la virulence de la tribune, moi je la trouve pas du tout virulente, hein, ni les propositions, ni le ton. Je peux voir des posts de scientifiques beaucoup plus virulents sur Twitter ou sur LinkedIn, de gens tout à fait sérieux. Et Jean Jouzel, t'es un grand climatologue, mais c'est quelqu'un qui dit qu'il faut revenir au capitalisme fordiste des années 50 et 60, hein, dans des entretiens. Moi, je peux le citer. Donc, c'est pas quelqu'un de très virulent non plus. Et par ailleurs, les grands figures de l'écologie en France sont tous des scientifiques, ou presque. Hein. Je rappelle que Survivre et Vivre est fondé par Grothendieck, qui était un grand mathématicien. Je rappelle que les agronomes ont été à l'origine du mouvement écolo en France, hein, et notamment René Dumont était un agronome. Donc il ne faut pas oublier que les scientifiques ont toujours été dans l'écologie très virulents, et beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Alors, ce qui est peut-être compliqué pour les gens qui nous écoutent, et ceux qui vont lire Fracas bientôt, ou qui écoutent le podcast En abattement d'ailes, c'est de s'y retrouver, parce que en fait, face à un scientifique qui va dire quelque chose, enfin vous venez d'en citer plusieurs, on peut toujours trouver un autre scientifique qui va dire l'inverse. Et comment on fait en fait pour s'y retrouver et ne pas, enfin pour sortir de, on pourrait se dire bah il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, et moi j'écoute les deux et je me fais mon propre avis. Cette position-là, de votre point de vue, est-elle juste ou alors quelle clé vous avez pour s'y retrouver dans cette espèce de magma d'informations pas toujours mise en perspective? Alors nous journalistes, on essaye de les mettre en perspective, mais est-ce que vous avez des clés là-dessus, peut-être Alexandre Poidat?
Il y a quand même quelque chose qui est assez marquant, c'est je trouve qu'on entend de plus en plus parler de consensus scientifique, et pour moi il y a un consensus scientifique, c'est-à-dire que c'est pas juste un débat entre scientifiques, c'est que j'ai l'impression que c'est plusieurs scientifiques qui disent la même chose et qui ne se font pas entendre justement, et qui se rassemblent et qui disent il faut qu'on porte notre voix de plus en plus. J'ai l'impression que c'est plutôt assez minoritaire des personnes qui contrediraient cela, et au contraire ils sont plutôt dénigrés par le domaine scientifique. Donc moi je vois pas trop de débat, je vois plutôt justement un consensus et un débat entre scientifiques et responsables politiques.
Là-dessus, Florence Gault.
Oui, en fait, comme le dit Alexandre, aujourd'hui, il y a très clairement un consensus scientifique sur aujourd'hui le réchauffement climatique, ce qui se passe très clairement. Aujourd'hui, ce n'est plus une opinion, comme ça a pu être pendant très longtemps le cas. Donc, Il y a déjà, en fait, ça à avoir en tête, c'est qu'on débat peut-être de la manière dont répondre, et donc sur la partie solution, sur comment on fait pour atténuer ou s'adapter au réchauffement climatique. En revanche, on ne débat plus sur le fait que les activités humaines sont à l'origine du réchauffement climatique. Ça c'est très clair. Donc il faut déjà réussir à scinder un peu ça. Et puis, notamment, j'avais posé la question à François Gémen dans dans le premier épisode que j'avais fait, où on avait fait tout un...
François Gemmen, donc membre du GIEC.
Oui, co-auteur du sixième rapport du GIEC, et qui du coup expliquait, en fait, quand on lit quelque chose d'un scientifique, bah déjà on peut aller voir où est-ce qu'il travaille. Est-ce qu'il est rattaché à un laboratoire, à une université, ce qui du coup permet de crédibiliser en fait de là où il parle. Un scientifique qui parlerait tout seul, qui n'est rattaché à aucune institution scientifique, bah déjà là il y a un petit questionnement à avoir. Et donc ça permet de vérifier la crédibilité de la parole du scientifique en question. Petit tips.
Allez, 9h18 exactement dans Je pense donc j'agis. On va tout de suite passer à notre deuxième sujet.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec Florence Gault, Alexandre Poidatz et Philippe Vionduri, on revient sur les sujets de l'actualité du mois d'avril 2024, avec vos réactions également au 04 72 38 20 23. Deuxième sujet, Anne, qui concerne la condamnation de la Suisse pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. C'était le 9 avril.
Oui, Melchior, la Suisse condamnée à payer 80 000 euros à l'association Les Aînés pour la protection du climat, qui a initié la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, chargée de faire respecter, pour rappel, la Convention européenne des droits de l'homme. La requête de l'association dénonçait des manquements des autorités suisses pour atténuer les effets du changement climatique, manquements ayant des conséquences sur les conditions de vie et la santé. Alors, il faut préciser que le même jour, la CEDH avait rejeté un recours contre la France, déposé par Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe, et la Cour avait également jugé irrecevable la requête de jeunes portugais contre 32 États, deux requêtes qui portaient également sur l'inaction climatique, qui ont été rejetées plutôt sur la forme que sur le fond. Et sur la requête contre la Suisse, la Cour a estimé à 16 voix contre, contre une, qu'il y avait eu une violation par la Suisse de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, un article relatif au droit du respect de la vie privée et familiale. La Cour a donc estimé que ce droit passait par une protection par l'État contre les conséquences du réchauffement climatique sur la vie et la santé des populations. Alors c'est la première fois que la CEDH condamne un État pour son manque d'action contre le changement climatique. Et au lendemain de la décision, les médias et les nombreux observateurs et observatrices ont salué une décision jugée historique. Alors, qu'en pensez-vous, Florence Gault? Pourquoi elle est historique, cette décision? L'est-elle déjà?
Alors oui, effectivement, c'est une décision historique. Bah, d'abord sur le fond, puisque en fait, cette juridiction reconnaît qu'elle est compétente pour traiter de la question climatique dans le cadre donc de cet article 8 dont vous parliez. Ensuite, en fait, elle admet que les conditions de la qualité de vie peuvent être détériorées à cause des effets du changement climatique. Ça veut dire avoir la canicule, la pollution de l'air, les incendies. Peuvent avoir un impact sur notre santé, donc sur nos droits à nous en tant qu'humains. Et puis la CEDH estime qu'en fait que les politiques que menées d'un État et avec ses manquements en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eh ben peuvent violer la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, sur le fond, en fait, ça c'est une ouverture sur le plan juridique à d'autres recours possibles, à d'autres le mot m'échappe à la mise en place, enfin d'action, en justice. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est aussi vous le disiez sur à mettre en lien avec les autres procédures et donc les autres requêtes qui étaient examinées, qui certes ont été déboutées, mais plus sur en fait sur la forme. Le statut de victime que notamment donc des Portugais qui attaquaient en justice pas moins de 32 États n'a pas été pleinement reconnu, mais là encore en fait la Cour a pu dire bah on est légitime à pouvoir s'exprimer sur le sujet, et donc là ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui vont pouvoir s'ouvrir dans d'autres pays.
Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Greta Thunberg. Elle a dit ce n'est que le début en matière de contentieux climatique. Partout dans le monde, de plus en plus de gens traînent leur gouvernement devant les tribunaux pour les tenir responsables de leurs actions. Alexandre Poidatz, de votre point de vue, ça ouvre de nouvelles perspectives, cette décision de la CEDH, sachant qu'il y avait déjà eu d'autres condamnations par d'autres juridictions auparavant pour inaction climatique.
Oui, ça fait toujours, c'est une bonne nouvelle, ça fait toujours jurisprudence et ça permet toujours de renforcer le droit. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez intéressant de voir qu'il y a un lien avec le sujet dont on a traité juste avant, avec les scientifiques, parce que en fait, on a une discussion d'un côté entre des scientifiques qui dressent un constat, la majorité de la population qui reconnaît le réchauffement climatique, et de l'autre côté, des responsables politiques qui n'agissent pas. Donc, c'est effectivement la situation où on a un constat sur lequel on est d'accord, comment on met des solutions. Et en fait, il faut juste se demander pourquoi on arrive devant la justice. On arrive devant la justice, c'est-à-dire les citoyens, les ONG, même des scientifiques aussi font partie de ces contentieux climatiques, pour dire, bah, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, la justice dans notre démocratie, lorsqu'il y a deux entités qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, est là pour trancher. Et lorsque la justice tranche et dit, il faut agir pour le réchauffement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, parce que la justice est l'entité suprême dans notre démocratie pour dire quel est le chemin à suivre. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça ouvre jurisprudence pour dire, bah, lorsqu'on demande à un tiers qui est a priori le plus neutre possible, il confirme qu'il faut réduire les émissions et que des actions ne sont pas suffisantes à l'heure actuelle pour aller dans la voie de la transition écologique.
Mais vous dites que c'est une bonne nouvelle, mais enfin, est-ce que c'est pas quand même aussi, j'interprète vos propos là, mais la défaite du politique quelque part ?
D'une certaine façon, oui, tout à fait. En France, d'ailleurs, quand il y a l'affaire du siècle, qui est l'action de justice, le contentieux climatique avec Grande 5 contre l'État, c'est pour inaction climatique. C'est-à-dire, ce qui est dénoncé, c'est justement l'inaction du gouvernement. Donc oui, c'est une défaite des responsables politiques. Et dans ce cas-là, nous avons la chance d'avoir la justice qui peut nous aider à mettre la pression et à renvoyer les décideurs politiques face à leurs responsabilités, face à la Constitution, face aux droits et face à l'intérêt général qu'ils sont censés défendre.
Philippe Vianduri, quel est votre regard là-dessus, sur cette, peut-être plus globalement, cette judiciarisation des combats écologiques ?
Ouais, alors moi en plus je suis juriste de formation.
Donc, ça tombe bien.
Du coup j'avais beaucoup de choses à dire. Je vais juste rebondir, effectivement, Portugal, si j'ai bien lu, c'est qu'en fait tous les recours nationaux n'ont pas été épuisés. Donc c'est ça le vice de forme. Hein. Et ça, la Cour l'a vraiment rappelé, principe de subsidiarité, ce qui fait que les procédures prennent 4 ou 5 ans. Donc ça c'est un vrai, voilà, on peut faire une procédure maintenant sur la base d'une nouvelle jurisprudence, on en décidera dans 4 ou 5 ans, si on la lance aujourd'hui. Donc c'est quand même un problème, hein, en termes de lenteur, etc. Et pour Damien Carême, je crois, c'est que la raison, c'est qu'il n'habitait pas en France au moment du dépôt.
Ce qui est député européen.
Donc voilà. Donc effectivement, moi je trouve qu'il y a un parallèle avec les scientifiques, c'est tout à fait vrai, dans la mesure où aussi le juge ne doit pas dire quoi faire, ne doit pas donner les solutions précises. Il est là pour mesurer en fait le respect des engagements que les États ont pris eux-mêmes. Hein. Donc c'est en signant la CEDH, on prend des engagements et en l'occurrence ils ne les respectent pas par leur politique publique. Mais il réassure aussi la marge d'appréciation des États. Donc c'est-à-dire qu'on dit le juge il dit cette décision ne doit pas remettre en question la marge d'appréciation qu'ont les États pour appliquer les engagements qu'ils ont pris. Donc du coup il réinstitue le politique quand même, hein. Il prend pas la place du politique. Et en fait, là, moi, j'ai un vrai problème avec l'idée que ça serait une décision historique. Alors, c'est une jurisprudence qui est intéressante, qui va dans le sens qu'on souhaiterait, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais historique, souvent on dit toujours historique, on a dit historique pour les accords de Paris, pour beaucoup de choses. En fait, est-ce que vraiment c'est historique ? Non, ça ouvre des recours, mais de façon extrêmement prudente. Il a aussi beaucoup corseté le juge, hein, la capacité à faire des recours sur ces thèmes-là, pour ce qui est surtout pas une guérilla en fait devant les tribunaux européens où tout le monde se met à déposer des recours et monte en justice. Enfin voilà, avance trop rapidement parce que là, ça ferait exploser le système européen. Donc voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ça va dans le bon sens, mais globalement, il réassure. À part le fait de dire, on peut aller devant le juge européen de la CEDH au motif de l'article 8 et obtenir une condamnation de l'État parce qu'il ne protège pas ses citoyens au fondement de l'article 8, ça produit quand même pas grand-chose de nouveau. Et encore une fois, les temps sont très longs, les recours sont très contraints. Donc voilà, donc il faut quand même relativiser, moi je pense, l'avancée que ça représenterait.
Alors relativiser, et puis certains se sont élevés aussi contre une décision qu'ils ont jugée illégitime, surtout en Suisse, mais pas que, en disant c'est une décision politique qui est à l'opposé du devoir d'impartialité d'une cour de justice. Comment vous réagissez à ces prises de position-là ?
Bah, en plus, non, parce que le juge, qu'est-ce qu'il dit? Il encourage la Suisse à préciser son cadre normatif, ses outils juridiques, pour, en gros, mener des actions publiques ensuite, comme le budget carbone. Enfin, il y a quand même des choses plus politiques que ça. On peut pas vraiment parler de gouvernement des juges à ce niveau-là, je pense. On est tous un peu déçus, même, je pense, de ce type de décision. Donc, non, moi, je pense que, là, parler de gouvernement des juges, il y a des choses sur lesquelles on peut en discuter. Sur ça, ça me paraît vraiment abusif. Et par ailleurs, juste pour modérer quand même le côté un peu de la déception peut-être qui peut s'exprimer dans mes propos, quand même, ce qui est bien dans les accords de Paris ou dans ce genre de discussion, de décision juridique, c'est qu'elle permet aussi aux oppositions nationales et à la société civile de fonder en droit leurs critiques. C'est-à-dire de dire, nous on fait des critiques sur l'action publique menée par le gouvernement, ici Macron, etc. Et de le fonder en droit sur des accords qui ont été signés, qui ont été pris et qu'on doit respecter. Et le juge dit ces accords ou ce droit n'est pas respecté. Donc ça fonde quand même la critique, qu'elle vienne de la société civile ou de l'opposition politique. Donc ça c'est quand même des bonnes choses qui vont dans le sens d'une vie démocratique plutôt saine en fait.
Alexandre Poidat ?
En un mot
Oui, c'est juste que ça me fait rire en fait, parce que souvent on a tendance à dire, vous savez, on associe les écolos à peut-être des dictateurs verts qui veulent imposer un nouveau modèle de société. On entend souvent cette dictature verte. Et en fait, là, quand il y a une justice qui est impartiale et qui dit, sur base de constitution du droit, il faut agir pour l'écologie. On rit et les politiques disent non, mais ils sont partiales. C'est pas juste. Donc voilà, ça me fait rire ce deux poids deux mesures.
Allez, il est presque 9h30 dans Je pense donc j'agis. On va marquer une petite pause et dans un instant, on va continuer de regarder, de se pencher sur les quelques épisodes marquants et significatifs de l'actualité de l'écologie de ces dernières semaines, avec toujours vos réactions au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. On va bientôt parler des Jeux Olympiques de Paris. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos trois invités dans cette première partie, Florence Gault, Alexandre Poidat et Philippe Vionduri. On continue, Anne, et je rappelle que le standard est ouvert pour attendre vos réactions, 04 72 38 20 23. On évoque maintenant les Jeux Olympiques de Paris qui commencent dans 3 mois et 3 jours, le 26 juillet. Et côté écologie, ces JO posent question d'une part sur leur impact environnemental et d'autre part sur la qualité de l'environnement qui va accueillir certaines épreuves, en l'occurrence celle de natation, puisque c'est la qualité des eaux de la Seine qui pose vraiment un problème, Anne.
Oui, alors les épreuves de triathlon, paratriathlon et natation en eau libre doivent se dérouler dans la Seine. Or, l'ONG Surfrider a rendu public le 8 avril une étude indiquant la présence de bactéries et Escherichia coli et entérocoque à des niveaux supérieurs, voire très supérieurs au seuil recommandé. Surfrider juge l'état des eaux de la Seine alarmant. Ce à quoi le préfet de région a répondu qu'il n'y avait pas de quoi s'alarmer puisque les usines de désinfection ne fonctionnent pas pour l'instant. Et du côté de la mairie de Paris, on explique que les conditions météo ont un impact sur la qualité des eaux et qu'en hiver, on peut jamais atteindre la qualité nécessaire à la baignade. Cependant, on peut rappeler qu'en août 2023, a priori, c'était pas l'hiver, la répétition générale de plusieurs épreuves olympiques avait dû être annulé en raison de seuils de qualité d'eau nettement dépassés. Quel commentaire cette actualité-là sur les JO suscite de votre part? Je ne sais pas qui veut se lancer. Peu de commentaires.
Pas tous en même temps.
Allez, Alexandre Poidat, désigné.
Moi, je suis désolé, mais quand on parle de ça, je pense à la phrase du président qui dit « je me baignerai », du président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit « je me baignerai dans la Seine », n'est-ce pas? Il l'a dit ça, hein, je crois, et je pense aussi, il me semble qu'à l'époque, Jacques Chirac avait dit la même chose pour un événement, je ne sais pas si c'était les JO ou quelque chose de similaire, et qu'il ne l'avait pas fait. Voilà, moi, je suis désolé de pas répondre vraiment sur le fond, mais je suis très curieux de voir est-ce que le président va se baigner ou pas face au constat de santé un peu triste que vous venez d'évoquer.
Bah merci de nous rappeler ça, on va être attentif. Philippe Vionduri, est-ce que ça vous inspire un commentaire, cette partie-là de l'actualité JO?
Cette partie-là, actualité JO, pas tellement en fait. Je pense que oui, effectivement, ponctuellement, il y a des problèmes, donc la sanitaire. Je pense aussi en Polynésie, il y a des problèmes de coraux parce qu'on veut poser des tours pour faire l'épreuve de surf sur des coraux. Enfin bon, il y a plein de petits problèmes ponctuels, qu'ils soient sanitaires, environnementaux, etc., qui se posent. Mais je pense que ce qui est plus intéressant, c'est quand même le côté un peu plus global des JO et de son modèle, quoi.
Alors justement, avec un rapport d'experts qui indique que malgré les efforts du comité d'organisation, les Jeux ne peuvent devenir écologiquement compatibles que si leur modèle est totalement réformé. C'est une étude publiée par l'ONG Carbon Market Watch. Côté positif, le rapport souligne que pour la première fois, un budget carbone a été fixé par les organisateurs. Il se monte à 1,5 million de tonnes d'équivalent CO2, soit deux fois moins que les émissions des Jeux de Rio ou de Londres. Alors l'ONG salue les efforts sur la construction. 95% des infrastructures sont déjà existantes ou alors seront réutilisables. Côté nourriture, des produits français en majorité et des repas végétariens. Mais là où le bât blesse, c'est sur les transports et aussi sur ce que l'on appelle les goodies, tous ces produits promotionnels qui viendront massivement de Chine. Pour Carbon Market Watch, la réponse, c'est un changement radical de modèle avec des jeux décentralisés dont les épreuves seraient réparties à travers le monde. Est-ce que ça, c'est une illustration, Philippe Vionduri, de la radicalité de la transformation nécessaire de nos sociétés, celle des JO, mais pas que?
Alors, peut-être que je vais en surprendre certains, mais déjà, je pense qu'il faut quand même se rappeler que l'écologie, c'est des arbitrages, en fait. Il n'y a pas de bonne décision. Même une petite compétition sportive produira du carbone, je veux dire, voilà. Donc la question, c'est, est-ce qu'on se l'accorde? Et une fois qu'on a dit ça, dans quel cadre, quel est le schéma mental dans lequel on se met, quoi. Là, en l'occurrence, moi, je veux dire, j'ai pas d'opposition à ce qu'il y ait des JO en soi. Je veux dire, c'est peut-être bien quand même qu'on s'accorde ça. Maintenant, est-ce qu'on doit avoir des JO qui sont l'incarnation pure et parfaite de la mondialisation, où on favorise du tourisme de masse qui vient pour ensuite consommer, où on favorise la multiplication des épreuves pour faire du spectaculaire sur une période de temps très dense? C'est ça qui a questionné, en fait. Moi, je pense que là, effectivement, la mairie de Paris a voulu être assez exemplaire, on peut le noter là-dessus, sur le budget carbone, sur voilà, ils ont essayé de poser des jalons, on peut leur reconnaître, mais n'empêche que le modèle en soi, il ne change pas. Et donc moi, je me reconnais plutôt effectivement dans les rapports qui vont aller pointer, comme ça a été cité, le fait que des JO sur plusieurs villes, enfin le modèle JO sur une ville, il était peut-être adapté à une époque où il y avait moins d'athlètes, moins de pays qui participaient ou moins de compétitions. Mais voilà, je pense que c'est carrément le modèle en entier qui doit être repensé. Et ensuite, il y a quand même le côté écologique là-dessus, il me parle assez moyennement aussi, parce que c'est important de le questionner. Mais à la fin, il y a quand même un modèle social qui va avec, de gentrification, de remplacement des quartiers, de brutalisation de l'existant. Je pense quand même au jardin d'Aubervilliers, qui était quand même pour le coup des espaces assez écolos, puisqu'ils permettaient des modèles de subsistance aux populations locales ou historiques, qu'on a rasé pour couler du béton dessus, alors que ça a été déclaré illégal par la suite par la justice. Mais on s'est servi de l'urgence des JO et des délais pour faire ces grands plans de remplacement de populations et de bâtis. Voilà, donc pour moi, c'est peut-être plus ça qui est intéressant. J'avoue que l'aspect écolo, bilan carbone, est assez vite limité quand on prend un objet aussi massif que les JO, quoi.
L'aspect environnemental, mais finalement, Alexandre Poidet, on en vient là à votre conception, par exemple, à lutte et contemplation de l'écologie, qui allie environnement et social. Pour vous, tout ça, c'est de l'écologie?
Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est ce que disait Philippe, c'est intéressant, c'est que ça rassemble quand même des gens, c'est créateur de liens sociaux, les Jeux Olympiques, c'est important en termes de symbole pour beaucoup de personnes, c'est une forme de pacification de l'ensemble du monde aussi, je veux dire, ça prône la paix. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui crée du lien social. Après, effectivement, on peut pas fermer les yeux sur l'empreinte environnementale de cet événement. Et l'écologie nous amène à sortir de notre zone de confort, d'une part. Notre mode de vie traditionnel doit être repensé. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement mettre une croix dessus. C'est justement comment repenser les Jeux Olympiques, comment repenser, pas que les Jeux Olympiques d'ailleurs, hein, des rassemblements internationaux comme ça aussi. Je veux dire, on est sur RCF, on peut parler des JMJ, par exemple. Moi, j'y étais l'été dernier, c'est magnifique, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir une question plus de rareté de ces événements? L'écologie, c'est aussi un peu cette rareté et de pouvoir savourer. Et si on lit social, écologique et spirituel, c'est pouvoir savourer des événements qui sont rares, mais qui sont d'autant plus qualitatifs. Donc je dirais ça. Et puis là, il y a aussi un enjeu. Philippe a un peu évoqué quelques cas au Bervilliers, mais aussi on a aussi cette situation de tous ces étudiants, par exemple, qui sont déplacés, de personnes en situation de précarité, des SDF qui sont déplacés de Paris. Je veux dire, moi, là, ça me fend le cœur, et c'est pas du tout dans une conception de l'écologie intégrale que prône le pape, où on va au contraire marginaliser les plus pauvres pour pouvoir faire en sorte que, a priori, des personnes de classe supérieurs, tant mieux s'ils ont les moyens, mais on a plutôt affaire à des personnes comme ça, parce que vu le prix d'entrée des JO, puissent assister à cet événement-là, oui, en termes de justice sociale, ça interroge beaucoup.
Mais ces questions-là que vous posez, qui sont des questions assez passionnantes, puisque c'est inventer demain, inventer notre modèle de vie ensemble, enfin... Vous avez, enfin, Philippe Vionduri, vous parliez d'arbitrage. On se dit que cette question-là, elle devrait être au cœur de nos préoccupations en permanence. Vous avez l'impression qu'elles sont portées dans les lieux de la vie démocratique, ou que finalement on se les pose que dans des lieux comme ici ce matin, mais de manière finalement assez périphérique et marginale, quoi.
Après, il y a des trahisons politiques aussi. Je veux dire, Hidalgo était celle qui avait dit qu'il n'y aurait pas de JO, et finalement elle les a fait. Donc. Le problème, c'est que là, la temporalité sur ce genre d'événements, elle est extrêmement complexe à gérer, puisqu'une fois que c'est lancé. On peut pas avoir ce débat 6 mois avant les JO, et pourtant, c'est 6 mois avant qu'on va en parler. C'est ça le problème. Il va y avoir une densification du débat, et une politisation, une radicalisation même du débat quelques mois avant, alors que les infrastructures seront quasiment déjà finies, ou en retard, ou qu'on peut plus arrêter la machine. Donc là, je pense qu'il y a un décalage très spécifique aussi à ce type de projet, qui les rend difficiles à débattre, en vrai. Moi, je m'intéressais pas spécialement aux JO il y a 4 ans. Voilà, maintenant c'est trop tard. Il y a des livres qui sortent, je pense à celui de Jeanne Lingard que je recommande, hein, Paris 2024, mais c'est trop tard, on peut plus arrêter la machine. Par contre, ça permet quand même de réfléchir à d'autres choses, et notamment, nous, on a un cas très spécifique, c'est qu'on va accueillir les JO d'hiver en 2030. Et la montagne, vu sa fragilité, vu le massacre écologique qui est en cours, je pense que là, ça peut-être servir, par contre, de catalyseur au débat pour les JO d'hiver. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être explorer en tant qu'écolo, que militant, qu'élu, etc.
Alexandre Podatz.
Ouais, c'est une très bonne question que vous posez, Anne. Pour moi, c'est un peu la grille de lecture entre l'individuel et le systémique, si vous voulez, sur l'écologie. C'est de se dire, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, l'événement comme les Jeux Olympiques, ça nous dépasse tellement. Donc même si on est un peu indigné d'une certaine façon, même si on est minoritaire, comment on peut agir là-dessus? C'est ça un peu la difficulté. Et là-dessus, souvent, ma grille de lecture, c'est de dire déjà, si on a un événement qui marginalise les plus précaires, on va créer du rejet auprès de cette classe de population. Donc voilà, c'est une forme de rejet de l'écologie qui va être vue comme punitive. Donc ça alimente un peu, vous savez, ce rejet de l'écologie. Et d'autre part... Du coup, comment on fait en sorte pour que la majorité de la population qui se sente impuissante face à ça puisse agir? C'est un peu dire, il faut avoir une prise de conscience. Déjà, c'est bien. Si on prend conscience et qu'on parle de l'empreinte environnementale des Jeux Olympiques ou d'événements comme ceci. Et d'autre part, de se dire que, à notre échelle individuelle, on ne pourra rien faire et qu'il faut pouvoir agir collectivement et que ça se concrétise par une action de citoyen dans des votes aux élections présidentielles, dans des interpellations collectives auprès de décideurs politiques.
Et on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, sur RCF. 9h40, on passe à notre dernier sujet.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et pour terminer, Anne, vous nous proposez de réfléchir à partir du télescopage entre différentes informations qui peuvent paraître contradictoires. D'une part, l'annonce de nouveaux records de température et le fait que les ressources d'eau ont diminué en France ces 15 dernières années. Et d'autre part, une bonne nouvelle, à savoir que les nappes phréatiques se portent bien sur la majorité du territoire français.
Oui, alors pour y réfléchir, je commence par vous donner quelques données précises. D'abord sur les nappes phréatiques, selon le bulletin mensuel du Bureau de Recherche Géologique et Minière, le BRGM, qui a été publié mi-avril, la situation s'est améliorée par rapport à 2023, puisque au 1er avril, 58% des nappes sont au-dessus des normales mensuelles en France métropolitaine, notamment grâce aux pluies de mars, mais aussi à celle de la période octobre-décembre. 15% des nappes sont au niveau de la moyenne et 27% en dessous. Alors que, pour comparer, en 2023, 75% des niveaux étaient sous les normales. Alors il y a cependant un département où la situation demeure critique de manière structurelle. Maintenant, c'est celui des Pyrénées-Orientales. Ensuite, deuxième donnée, dans le même temps, France Stratégie, qui est un organisme gouvernemental, a publié il y a quelques jours un rapport qui indiquait que la ressource en eau renouvelable avait diminué de 14% au cours des 15 dernières années. Et puis, je rajoute troisième élément sur le réchauffement climatique. Le mois de mars 2024, le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec une température moyenne de 1,68 degré, plus élevée qu'un mois de mars normal dans le climat de l'ère pré-industrielle. Et puis, sur les 12 derniers mois, la température moyenne mondiale est la plus élevée jamais enregistrée. Elle dépasse 1,58 degré des niveaux pré-industriels. Ce sont des chiffres donnés par l'Observatoire Copernicus. Alors, ça fait peut-être beaucoup de chiffres, mais c'est pour illustrer le fait que souvent, quand on parle d'écologie, finalement, on se retrouve face à des données qui peuvent apparaître contradictoires et qu'on se demande un peu, quand on n'a pas étudié tout ça de près, comment s'y retrouver au milieu de ces informations contradictoires. Florence Gault.
Oui, puis c'est souvent d'ailleurs ce qui vient alimenter le discours climato-sceptique, hein, d'avoir des infos comme ça qui peuvent à première vue sembler paradoxal. Là, typiquement, dans ce cas-là, on est sur la différence en fait entre météo et climat. Alors oui, aujourd'hui, les nappes phréatiques sont remplies en grande majorité parce qu'il a particulièrement plu depuis mi-octobre. Et en même temps, on a vu ces records de chaleur. Donc, si on fait un petit point définition, le climat, c'est le temps sur un temps long et la météo, c'est les événements à court terme. Et donc, en fait, les changements climatiques se manifestent par des altérations, en fait, des événements météo. Donc, ce n'est pas, par exemple, parce qu'il a neigé ou qu'il fait froid pendant l'hiver que le réchauffement climatique n'existe pas. Et ça, c'est des notions, en fait, qu'il faut pouvoir revoir, vulgariser de manière à ce que ce soit un peu plus facile pour être compris par le grand public. Et il y a un vrai enjeu là aussi à nouveau, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici sur cette antenne, mais de formation, de vulgarisation et d'explication un peu pédagogique auprès du grand public.
Un peu de pub au passage, Melchior, je renvoie à l'émission qu'on avait fait il y a quelques semaines sur météo et climat, c'est oui, pas pareil justement avec la climatologue ouais, Françoise Vimeux et puis le prévisionniste à Météo France Olivier Proust. Ce télescopage d'informations, je sais pas si le mot est bon, mais qu'est-ce qu'il vous inspire, Philippe Bionduri?
Ouf. oui, enfin, sur la solution par rapport à tout ça, des gens qui peuvent être perdus, je sais pas quoi dire à part répéter toujours la complexité de la chose scientifique, faire cette pédagogie-là et rappeler qu'en fait, les tendances elles sont là. Les tendances, si on n'est pas climato-sceptique, c'est que ça va se réchauffer, c'est qu'on va perdre de la ressource en eau, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'événements extrêmes, etc. Mais surtout, moi, je trouve qu'il y a un truc dans le télescopage qui pousse à l'humilité, en fait. Parce que là, il y a un discours qui, à la fois, commence à émerger de « on peut contrôler ». On peut contrôler ces événements, on peut prévoir, on peut s'adapter. Et un discours aussi très CO2 centriste. En gros, on va tout résumer à une donnée, c'est le carbone. Et si on pompe du carbone dans l'atmosphère, là, c'est bon, ça va le faire. Or, on voit bien que c'est en fait pas du tout comme ça que ça se passe. Par exemple, je donne une donnée, on se rend compte qu'on a enlevé des aérosols dans l'atmosphère, parce que c'était des polluants qui massacraient la couche d'ozone, et qu'en fait, ces aérosols, ils refroidissaient le climat. Et là, il y a une étude qui vient de tomber, on vient de se rendre compte que sur les 20 dernières années, 40% du réchauffement, de l'énergie du réchauffement, vient du fait qu'on a dépollué l'atmosphère. Donc, c'est pour montrer en fait que les cycles, quand on parle météo-climat, c'est pas juste la question temporelle, elle est effectivement, elle a été bien décrite, mais c'est aussi la question de l'ampleur des cycles et de leur. Enfin, on parle de globalité, on parle de cycles planétaires, cycle de l'eau, les particules fines qui vont se déposer sur les glaciers, on parle du soufre dans la haute atmosphère, on parle des cycles hydriques, etc. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment. Enfin, à un moment, il n'y a pas 36 solutions, hein, il faut juste réduire notre empreinte, c'est-à-dire la pression, les pressions que nous émettons, nous, sociétés industrielles, capitalistes et industrielles, je précise, sur l'environnement en général, sur la planète, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que le contrôle juste de la dose de CO2 dans l'atmosphère ne suffira très largement pas à juste baisser ça. Et on pourrait parler aussi de la question des nappes phréatiques après, mais je laisse un peu la parole.
Alexandre Poidat.
Oui, en fait, on parle de... On parle de dérèglement climatique, de situation extrême. Donc, en fait, il faut juste voir qu'à chaque fois, oui, il fait froid en hiver, il fait chaud en été, mais c'est normal. Ce qui est anormal, c'est quand justement en hiver, on va avoir des situations très chaudes à un moment ou en été, des situations très froides, parce que ça ne devient plus normal. À partir du moment où ça ne devient plus normal, c'est qu'il y a un dérèglement. Et c'est pareil, c'est pas qu'il fait juste chaud en été, c'est qu'il fait très très chaud en été. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va vivre avec 4 mois d'été où on crève de chaud, et on va vivre avec 8 mois d'automne où il y aura des intempéries d'autant plus fortes et des déluges, etc. Et qui va subir tout cela? Ce sont à nouveau, on parlait d'écologie intégrale tout à l'heure, mais les plus précaires, parce que les intempéries, là on peut le voir, par exemple dans le nord de la France, au début du mois de janvier, ça a impacté des personnes qui étaient obligés de partir de chez eux et qui étaient dans des situations dramatiques et de précarité extrême. Et on peut voir aussi, à l'inverse, que la sécheresse, elle va surtout impacter des agriculteurs l'été. Donc j'évoque ces deux types de populations pour remettre en perspective aussi ce qu'on a dit sur les Jeux Olympiques, où on disait c'est insoutenable, mais quelles conséquences ce type d'événement qu'on chérit peut-être et qu'on aime bien vont avoir pour conséquence un peu plus sur le moyen ou long terme sur l'ensemble de notre mode de vie. Je pense qu'on peut mettre les deux dans la balance et voir qu'il y a une priorité qui est plutôt de réduire notre mode de vie actuel pour pas entacher notre mode de vie, notre soutenabilité, la vie, tout simplement, dans le futur.
Mais du coup, à vous entendre, on a l'impression que, enfin, si on écoute les verbes réduire, là, par exemple, à l'instant, je vais me faire l'avocat du diable, mais beaucoup de gens vous diraient, ouais, mais c'est encore de l'écologie punitive. Pardon, je n'assume pas ce vocable, je m'en fais la porte-parole. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a à mettre en face en termes plus, peut-être positifs? Est-ce qu'aussi, il y a de l'enthousiasme là-dedans? Enfin, est-ce qu'il peut y avoir des choses enthousiasmantes?
Moi, je trouve que c'est une question hyper importante parce que l'écologie punitive, en fait, il faut dire une certaine forme de vérité. Il faut une écologie punitive. La question, c'est sur qui? Je dirais, il y a des gens qui vont devoir réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je suis désolé, il faut qu'on dise la vérité. Maintenant, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, l'écologie punitive est vue comme punitive parce qu'elle touche la majorité de la population, et notamment les plus précaires. Quand on parle de la taxe carbone sur les gilets jaunes, ça touche tout le monde de la même façon. C'est pour ça que c'est perçu comme une injustice, c'est pour ça que c'est perçu comme un rejet. Parce que quand on est pauvre et qu'on doit en plus payer une taxe carbone pour aller au travail, évidemment que c'est injuste, alors que Bernard Arnault, qui va utiliser son yacht ou son jet, pardon, mais un milliardaire quelconque, va payer la même taxe carbone. Donc ce que je veux dire, c'est que derrière, l'écologie punitive, elle peut être très efficace si elle est ciblée sur ceux qui polluent le plus. Et ceux qui polluent le plus, ce sont avant tout les plus riches de la planète, parce qu'ils ont un mode de vie qui est justement outrancier, yacht, jet, etc. Mais aussi les multinationales qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et si on va mettre la focale de l'écologie punitive sur ces personnes-là, ça permet d'alléger l'ensemble de la population et on peut rentrer dans un cercle vertueux où l'ensemble de la population va voir des améliorations, va voir des investissements dans des infrastructures grâce à l'argent levé de taxation sur les multinationales ou de taxation sur les ultra-riches, dans des services publics, dans des infrastructures de transport qui vont les permettre de passer de la voiture au bus ou au vélo électrique ou des choses comme ça. Et donc là, en fait, on va aider les gens dans une voie de la transition qui va être douce pour la majorité de la population, mais oui, qui va pénaliser une petite partie de la population, mais qui bénéficie déjà d'un cadre de vie très important et très confortable à l'heure actuelle.
Philippe Bionduré, vous souhaitiez revenir aux nappes phréatiques?
Sans transition.
Je ne vais pas aller sur ce discours que globalement je partage, celui que je viens d'entendre, hein, mais bon, qui mériterait de beaucoup plus de temps en fait pour montrer en quoi c'est pas punitif un projet écologique qui est social, qui est inscrit dans le social. Peut-être qu'on parlera après de la SSA, de la Société de sécurité de l'alimentation. Typiquement, c'est le genre de projet écologique qui, je trouve, porte une charge positive extrêmement forte. Oui. Je reviens juste sur les nappes, mais pour montrer vraiment, ça a été dit à un moment, réchauffement, dérèglement. Moi, je préfère parler de dérèglement que de réchauffement pour la simple et bonne raison qu'effectivement, c'est déréglé. Et par exemple, là, on va se réjouir maintenant que les nappes phréatiques sont pleines. Très bien, une partie d'ailleurs. Déjà, j'aimerais rappeler que, désolé d'être l'apôtre de malheur, hein, mais que c'est 6 à 8 semaines une vidange. Hein. Donc là, on est sauvé pour juillet, mais pas forcément pour août si une sécheresse se déclenche. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Hein. Bon, voilà. Ensuite, bon, ok, super, il va peut-être pas manquer d'eau cet été. Mais en fait, un désastre chasse l'autre. Là, en fait, ce qui est en train de se produire, c'est du gel. Donc on parle sur une matinée comme ce matin, il y a des zones où il y a 20 à 40% des récoltes qui sont détruites. En une matinée. Hein. On parle aussi de coulure, donc c'est-à-dire qu'en fait les pollens là à cette époque de l'année sont lavés parce qu'il y a un excès d'eau. Donc en fait, il y a pas de production derrière parce que ça a pas de pollinisation. Donc en fait, je juste reviens là-dessus, mais voilà, c'est le réchauffement, c'est pas que des chaleurs extrêmes à un moment où on souffre un peu et de la sécheresse chronique. C'est plein d'autres choses et ça montre qu'en fait, le cycle de l'eau, une fois qu'il est déréglé, il peut massacrer les récoltes aussi bien que une sécheresse extrême. Donc voilà, moi j'insiste là-dessus. Et en fait, l'écologie punitive, bon, très bien. En fait, la punition, elle va venir d'autre part, hein. Elle va venir de nos écosystèmes. Et je sais pas comment on va faire quand on aura chaque année des situations de perte de rendement massive, etc. Sans parler des trucs sanitaires, on pourrait revenir sur le Covid, hein. Faut quand même pas oublier que c'est quand même des implications environnementales à la base, hein, de fragmentation des milieux naturels, etc., qui ont causé la zoonose qui a été le Covid. Enfin, voilà, les conditions dégradées de vie dans la crise écologique, dans la catastrophe écologique, elles sont là sous nos yeux, elles commencent à émerger, et c'est pas juste on va manger des glaces en avril au lieu d'en juillet, quoi.
Et vous l'avez dit, la SSA, la Sécurité sociale de l'alimentation, on en parle dans la seconde partie de Je pense donc j'agis, dans 8 minutes exactement. Anne, regardez l'heure, ça passe très très vite et on va terminer cette émission par une rubrique qu'on aime bien, qu'on a baptisée « Les oubliés de l'actu ».
Oui, en fait, c'est sujets dont on entend peu parler, mais où ça peut être tout simplement les sujets dont nos trois intervenants et intervenantes de ce matin ont envie de nous parler en matière d'écologie. On commence par qui ? Par Alexandre Poidatz, tiens.
Bah, je vais continuer un peu mon fil. Non, mais ça va rejoindre un peu les discussions qu'on avait, parce que je trouve ça très intéressant de se dire, mais du coup, quand on parle des JO ou quand on a parlé de la Coupe du Monde du Qatar et qu'on entend les uns et les autres dire « Ah, mais il faut boycotter ». Là, on peut voir un peu de l'écologie punitive. Je pense que les personnes qui peuvent se permettre de boycotter, c'est très bien. Et tant mieux. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais derrière, à nouveau, je suis désolé de revenir sur ça, mais je pense que si on met le poids de l'écologie sur ceux qui ont plus de pouvoir, alors là, on peut rentrer dans une phase de transition qui va être douce pour la majorité de la population. Et c'est l'actu de la semaine dernière, avec une tribune de Esther Duflo, qui est quand même prix Nobel d'économie, elle est française, et qui a fait une tribune dans Le Monde que je vous invite à lire, où elle dit justement, si on a ces deux taxations dont j'ai parlé, donc c'est une prix Nobel d'économie, c'est pas un militant qui en parle, elle dit, sur les multinationales et sur les ultra-riches, on peut commencer à avoir un cercle vertueux pour l'ensemble du monde et une solidarité internationale, notamment pour les pays du Sud, pour qu'ils s'adaptent au réchauffement climatique, pour qu'ils transitionnent progressivement, mais aussi nous, qui sera très positif. Donc voilà, merci Esther Duflo pour ce témoignage dans Le Monde.
Florence Gault.
Alors moi, je vais faire de l'économie circulaire. Je vais revenir au début de l'émission pour aborder le comité intergouvernemental de négociation du traité international sur la pollution plastique qui s'ouvre aujourd'hui à Ottawa, qui se réunit pour sa quatrième session de négociation. L'objectif, c'est donc d'aboutir à un traité plastique qui va essayer de... En tout cas, c'est un des objectifs des différentes institutions, organisations, fondations qui participent à ce traité, d'arriver à un objectif de réduction de la production plastique d'au moins 50% en 2040 à l'échelle mondiale par rapport à 2021. Il faut savoir que la production de plastique a doublé durant les 20 dernières années pour atteindre 460 millions de tonnes en 2019. Donc il y a ces discussions qui, là encore, si ce traité pouvait aboutir, auraient un impact à l'échelle mondiale et donc la mise en place d'objectifs et de solutions, on peut dire, mises en place.
Voilà. Affaire à suivre donc à partir d'aujourd'hui.
Jusqu'au 29.
Alors c'est bien, il nous reste 4 minutes, Philippe Vianduri, pour parler de fracas. Alors bah, on veut tout savoir. quand arrive le premier numéro? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il faut le lire?
Donc du coup là on est en pleine campagne de précommande et de préabonnement pour financer le lancement de ces médias. Donc du coup le premier numéro arrivera en septembre sur abonnement, en vente directe, en librairie surtout. On a une grosse stratégie librairie. C'est un truc épais, hein. C'est 132 pages, voilà, ça doit durer 3 mois, quoi. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? On a aussi l'ambition vraiment de développer la vidéo, d'une production sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, bon, on aime le papier, on aime creuser des sujets sur 5, 6, 10 pages, voilà. Mais on a aussi un enjeu, puisqu'on est un journal qui sera très engagé, évidemment, vu mon discours. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de porter aussi ces idées, se faire le relais, en tout cas, c'est des voix de l'écologie aujourd'hui, des luttes ou des combats de l'écologie auprès d'un grand public. Donc pour ça, on va essayer de mettre en place quand même une chaîne vidéo qui est capable de s'adresser à un public de non-initiés ou de non-convaincus. Voilà. Mais plus généralement, moi, je veux juste dire sur la ligne éditoriale, mais on a beaucoup tourné autour de l'écologie punitive, comme à chaque fois, on se retrouve toujours un peu cornerisé dans ces débats, hein, malgré nous. C'est vraiment un média qui a pour fonction, parmi ses fonctions, aussi d'aller explorer les possibilités d'alliance sociale. Parce que pour nous, le cœur de l'écologie, ça doit être la solidarité, l'humilité. Enfin, il y a des valeurs, en fait, dans notre projet écologique à nous, en tout cas la façon dont on voit les choses. Mais ça se fera jamais sans une humilité des écolos par rapport à la complexité sociale qui est face à eux, à la complexité aussi climatique, etc. Et une recherche de solidarité dans la société, et notamment de créer des alliances. Et là, on va parler apparemment après, enfin, vous allez parler de la société, de la SSA, pardon. Typiquement, là, c'est une recherche d'alliance entre écolos et social, mais plus précisément entre écolos et agriculteurs et consommateurs peu argentés. Voilà, et ça, c'est des triangulations que je trouve extrêmement intéressantes. De même qu'il faut travailler des alliances sociales avec les naturalistes et les chasseurs sur le terrain, ça se fait, les gens y discutent. De même qu'il faut travailler des alliances sociales avec les ouvriers du fret. Voilà, aujourd'hui, elles existent en fait sur le terrain, ces alliances se créent. Mais dès qu'on remonte un peu en généralité, elles n'existent plus. Ou alors tout est hystérisé dans le débat. Et du coup, nous, on a envie d'aller travailler, de mettre des visages sur ces luttes, des visages sur ces alliances. Et voilà, on pense qu'il y a tout un travail ici à faire.
Et on se réjouit de l'arrivée d'un nouveau média indépendant dédié à l'écologie. Je cite juste une publication, Melchior, parce qu'on a parlé rapidement de René Dumont. En fait, les 50 ans de sa candidature à la présidentielle, la première d'un écolo. Il y a un livre qui sort, est coédité par Reporter, et Le Seuil, le prophète qui avait raison, d'Arthur Nazaret. On vous encourage à aller le lire.
Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Philippe Bienduri, et vous êtes le bienvenu pour une prochaine fois, avec grand plaisir. Merci Alexandre Poidat. Je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Lutte et Contemplation. Et merci Florence Gault.
Merci.
On retrouve votre podcast En un battement d'ailes sur toutes les plateformes de podcast. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et sur Insta également, on peut vous suivre. Merci beaucoup Anne. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame également qui vous accueille, Alexandre et Philippe, ce matin en studio. Dans un instant, alors on l'a bien dit, hein, on va parler de la sécurité sociale de l'alimentation, la SSA, qu'on va découvrir. On va prendre le temps vraiment d'être concret avec vous et avec vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite.